Bonjour mes amis. Je cite cette phrase de saint Paul, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui. Eh bien, c'est donc que l'honneur de l'Église, c'est le Christ. Mais réciproquement, que l'honneur du Christ, c'est l'Église. L'Église glorifie le Christ, mais aussi bien que le Christ la glorifie. On trouve pourtant des tas de gens pour nous dire « Jésus, je l'aime, je l'admire, je l'adore, mais je ne peux pas souffrir l'Église. » Comment une telle séparation est-elle possible? L'Église n'est-elle pas l'épouse du Christ? Celle qu'il a patiemment formée à partir du groupe de ses 12 apôtres et à qui il a confié ses paroles et ses gestes pour qu'elle les fasse parvenir aux extrémités de la terre? On a beau expliquer qu'une société qui a traversé l'histoire et comprend des millions d'hommes ne peut pas se présenter exactement comme la petite bande qui entourait Jésus en Galilée. On a beau dégonfler les baudruches autour des richesses du Vatican et je ne sais quoi encore, mais rien n'y fait. Et toutes les mises au point historiques qu'on pourra fournir sur les points chauds de l'histoire de l'Église n'ébranleront pas davantage la conviction que Jésus et l'Église, c'est vraiment deux choses différentes. Et même opposées, la liberté contre la contrainte, l'invention contre la routine, etc. Comment en est-on arrivé là? Tout simplement parce qu'on a bâti de toutes pièces un Jésus idéaliste et anarchiste, éloigné des rites et des doctrines, qui ne peut apparaître évidemment qu'en contradiction absolue avec ce qui s'est passé après, c'est-à-dire une Église hiérarchique, soucieuse de l'orthodoxie et dispensatrice des sacrements. Or, ce Jésus n'a jamais existé. La recherche actuelle, après beaucoup de tâtonnements, a fini heureusement par reconnaître le profond enracinement du maître galiléen dans le judaïsme. On ne peut plus faire de lui l'ennemi de la loi, du rituel, le tenant d'une spiritualité désincarnée. Il est l'héritier d'une éducation séculaire qui a donné du prix au geste et qui a inoculé le respect de Dieu jusque dans les moindres détails de la vie de tous les jours. On sera alors moins surpris de le voir confier aux 12 apôtres qu'il a choisi pour cela une réelle autorité sur le troupeau qui se formera ou se reformera après Pâques avec tous ceux qui auront la foi. C'est à eux et à eux seuls qu'il remet le trésor inestimable de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. À eux qu'il confie la transmission autorisée de son enseignement. Qui vous écoute, m'écoute. À eux, le pouvoir de lier et de délier. C'est d'ailleurs ainsi que ça s'est passé dans les premiers jours de l'Église, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Auprès des 12, les premiers croyants de la foi nouvelle ont vu poursuivre l'aventure que certains avaient vécue avec le Christ. Les mêmes miracles, les mêmes pressentiments du royaume, et s'il le faut, la même manière de s'offrir jusqu'à l'effusion de son sang. Le rôle des apôtres vient de là. Ils sont le lien vivant avec le Christ. Et là où ils sont, le Saint-Esprit circule. Et on découvre peu à peu que ça ne s'arrête pas à eux, ça continue avec eux et avec ceux qui investissent de leur mission en leur imposant les mains. Tout le reste a découlé de là. Liturgie, sacrement, doctrine, tradition, hiérarchie, tous ces éléments qu'on croit imposer un beau jour, on ne sait par qui, sont en fait les garants de la fidélité aux origines. Comme on ne veut rien perdre de l'impact du Christ, il s'agit de protéger la nouveauté qu'il a apportée contre toutes les contrefaçons qui n'ont pas manqué de fleurir très vite. Ah, si seulement on voyait l'Église ainsi dans sa vérité première et dernière, comme elle donnera envie. À nous de la recevoir avec des yeux neufs et d'en bien parler. Bonne semaine, mes amis, bon dimanche.